وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصحابة لكمبانيو دي بروفيت صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين avaient pour habitude de se recueillir, de se réunir autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'asseyaient ensemble, ils consacraient une partie de leur temps dans l'évocation du nom d'Allah azza wa jal. Car ils savaient que le temps passé dans le rappel du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala allait être pour eux une réussite dans les moments à venir. Ce n'est pas pour rien qu'il est légiféré dans la religion d'Allah azza wa jal d'invoquer Allah le matin et le soir. Ceci afin de commencer ta journée avec la baraka d'Allah et de commencer ta soirée avec la baraka d'Allah. Et les sahaba radiyallahu anhum s'asseyaient ensemble pour se rappeler mutuellement les bienfaits d'Allah sur eux. La foi l'a guidé à l'islam. Et c'est pour ça qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam passe devant une assemblée de compagnons et leur demande « Ma ajlasakum » Qu'est-ce qui vous a poussé à vous asseoir de la sorte, à vous réunir ? Ils ont dit « Nous nous sommes assis afin de se rappeler entre nous les bienfaits d'Allah et de nous avoir guidés à l'islam. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, les ayant écoutés attentivement, leur a dit « Allah, ma ajlasakum illa dhalik, par Allah, vous ne vous êtes assis que pour ça uniquement ?» Les compagnons aussitôt ont dit « Allah, ma ajlasana illa dhalik, par Allah, nous nous sommes assis que pour ça. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Ma sa'altukum tuhmatan lakum. » Quand je vous ai questionné, ce n'est pas pour vous remettre en doute ou pour vous accuser de quoi que ce soit. « Walakin atani Jibril. » Mais Jibril est venu me voir. فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. Et il m'a informé qu'Allah est en train de vous vanter auprès des anges. Parce que tu t'assois et tu donnes de ton temps pour le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah? Si ce n'est celui qui t'a créé, celui qui t'a accordé tous tes bienfaits, celui qui te nourrit, qui t'abreuve, qui te vêtit, qui exauce tes demandes, qui te guide, qui te facilite ce qui t'est difficile et qui te délivre des calamités. Ce Seigneur-là aime que tu consacres ton temps dans son évocation, que tu te souviennes de lui. Et sache que ce n'est pas parce qu'il en a besoin. Il est si parfait qu'il n'a aucunement besoin de ton assise. Mais il aime le bien pour toi et il sait ce qui est bon pour toi. Son rappel. Alors il te l'a légiféré et il aime te voir te faire du bien. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous sommes dans une belle assise, dans un bon moment et un bon endroit propice à l'évocation du nom d'Allah. Certes, pas mal d'entre vous, vous êtes fatigués. Vous voulez vous reposer, ce qui est tout à fait naturel. Mais le sacrifice, quand il est pour Allah Azza wa Jalla, tout comme on a pu le faire combien de fois dans notre vie, se sacrifier pour de la dunya, pour quelque chose n'ayant pas la moindre valeur. Pourquoi ne pas alors sacrifier un peu de ton temps alors qu'on vit en sécurité, on ne craint pas d'être agressé, on ne craint pas d'être malade, on ne craint pas de mauvaises choses. Pourquoi ne pas consacrer un peu de temps à écouter le Coran et la Sunna. Et c'est pour ça que les compagnons s'appelaient mutuellement et se disaient « Ta'alaou, nu'minu sa'a, asseyons-nous, nourrissons notre foi un instant. » C'est donc ce que nous allons tenter de faire en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala la baraka, la réussite, la bénédiction, et c'est notre cher frère Ibrahim Abu Talha Hafidahullah qui va prendre la parole pour commencer, inshallah ta'ala.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلف في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم فصلى الله عليه وسلم certes la foi s'use dans la poitrine de l'un d'entre vous tout comme le vêtement de l'un d'entre vous s'use. Demandez donc à Allah le Très-Haut de revivifier votre foi. Demandez donc à Allah le Très-Haut de revivifier votre foi. La foi, c'est une croyance dans le cœur. Une parole sur la langue. Des actions avec les membres. Cette foi augmente lorsqu'on obéit à Allah, le Tout Miséricordieux. Et elle diminue lorsqu'on lui désobéit et qu'on obéit au shaytan. Et cette foi-là, c'est le don le plus précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous est accordé. C'est le bienfait le plus prisé. C'est la cause de l'entrée du paradis. C'est la cause de la vie heureuse. C'est la cause de l'acceptation des œuvres dans ce bas monde. La cause de la réussite dans la tombe lors du questionnement des deux anges. La cause du salut dans l'au-delà. C'est la chose qui pèse lourd sur la balance des bonnes œuvres le jour dernier. Et sans cela, nul ne pourra obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette foi, il faut l'entretenir. Cette foi, il faut l'entretenir. Et parmi les pires poisons, les mauvaises herbes, maladies, délétères et destructrices qui viennent affecter cette foi, il y a les péchés. Il y a les péchés. Au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Tout fils de Adam est pécheur. Et le meilleur de ceux qui pêchent sont ceux qui se repentent. Ainsi, les péchés ont un effet gravissime, tant sur le cœur de l'individu que sur ses membres, sur sa subsistance, sur son visage, même sur la considération et l'amour que les gens lui portent. Les péchés, c'est ceux qui alourdissent le serviteur dans son acheminement et son voyage vers Allah et la demeure de l'au-delà. Et s'il en est ainsi, on doit tous apprendre comment se défaire de nos péchés, comment se délier des chaînes de l'humiliation, du rabaissement, de la servitude au shaitan, comment faire pour se séparer de manière définitive de ces péchés qui ont alourdi nos épaules, qui ont handicapé nos jambes et qui ont perturbé la pureté de notre cœur. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a un chapitre qui se nomme « Les causes pour se défaire des péchés » dans un livre qui s'appelle « Idatus Sabiri » « Les provisions des endurants ». Et dans ce livre exceptionnel, il a mentionné ce chapitre. Et on va mentionner, inshallah ta'ala, quelques points. Il en a mentionné 20. on a, rahimahullah ta'ala, mentionné 20, on va en mentionner certains. Et le but, lorsqu'on s'assied et lorsqu'on écoute ce thème, ne doit pas être de penser à autrui, à d'autres personnes. Ah, c'est vrai, lui, il a ça. Non, le but, c'est de se soigner soi-même. Et on est tous le serviteur faible et pécheur. Lorsque tu t'assieds et que tu écoutes ce rappel, il faut s'asseoir avec sincérité, avec véracité. Et que chacun d'entre nous fasse ses comptes dans sa relation avec Allah. Que chacun d'entre nous fasse ses comptes dans sa relation ensuite avec les serviteurs d'Allah. Et qu'il désherbe, qu'il enlève les mauvaises herbes de son arbre, l'arbre de la foi, afin qu'il pousse de la plus belle des manières, que ses branches, que ses feuilles soient parfaitement élaguées et convergent vers le ciel. Ainsi, il obtiendra de cet arbre-là les meilleurs fruits, et ce, à chaque instant. Et ce, à chaque instant. Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit que la première cause qui va renforcer le serviteur pour avoir les moyens de se défaire du péché est Ijlalullah tabaraka wa ta'ala. Ijlalullah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de vénérer Allah, de ressentir sa grandeur. C'est le fait de ressentir qu'Allah, c'est l'immense. C'est le plus grand. C'est le plus haut. C'est le plus fort. C'est le roi des et maître des cieux et de la terre. C'est le dominateur suprême. Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois ressentir qu'il te voit. Il connaît ton état. Mais également, il t'entend. Il t'entend. Donc, celui qui a dans son cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où on lui désobéit, il nous voit, il nous entend, et il connaît notre situation, cela sera un grand tremplin pour permettre aux serviteurs faibles de se renforcer pour pouvoir délaisser la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le secret est que ce cœur-là témoigne de la grandeur d'Allah, de sa perfection, de son immensité, et particulièrement du fait qu'il nous voit et qu'il nous entend. Qu'il nous voit et qu'il nous entend. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Et ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Alors que de la terre toute entière, le jour de la résurrection, il ne fera qu'une poignée. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِ. Quant aux cieux, ils seront pliés dans sa main droite. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Exempt et élevé soit-il face à tout ce qui lui associe. À la fin de Surat al-Zumar, Allah Azza wa Jal nous montre de sa grandeur, de son immensité. Et le musulman qui témoigne de cela avec son cœur véritablement, trouvera la force nécessaire avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et son assistance afin de s'éloigner de sa désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également مَا لَكُمْ لَا تَرْضُونَ لِلَّهِ وَقَامُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Qu'avez-vous donc à ne pas vénérer Allah comme il se voit, alors qu'il vous a créé étape par étape après étape. Donc, on doit vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, connaître de sa grandeur, et notre cœur doit témoigner qu'Allah Azza wa Jal nous voit, nous entend et nous surveille. Cette conviction-là, elle va te donner la force et le moteur suffisant pour réussir à délaisser le péché. Parce que lorsque tu vas te rapprocher du péché, tu vas dire, oh âme, Allah te voit, comment est-ce que tu vas faire pour lui désobéir sans qu'il te voie? Oh âme, Allah t'entend, comment est-ce que tu vas faire pour parler avec de mauvaises paroles sans qu'il t'entende? Oh âme, ô Seigneur, connais ta situation. Mais ces ressentis-là, ces états du cœur, vont pousser le serviteur à s'éloigner du péché, parce que ça va développer en lui une grande adoration qui est le haya, la pudeur. La pudeur, tu vas avoir honte du regard. Tu vas avoir honte qu'Allah t'entende dire de mauvaises choses. Et comme l'a dit Bishr ibn al-Harith, un des vieux prédécesseurs, لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوا. Allah. Bishr ibn al-Harith nous dit, si les gens avaient médité sur la grandeur d'Allah, ils ne lui auraient pas désobéi. Si les gens avaient médité sur la grandeur d'Allah, ils ne lui auraient pas désobéi. Ainsi, le point le plus important, ikhwat al-Iman, c'est d'apprendre à connaître Allah, étudier ses attributs, étudier ses actions. Et plus tu nourriras ton cœur de cette science, qui est la science la plus noble, plus tu seras fort, plus tu seras mieux, plus tu seras épanoui, et plus tu délaisseras la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième cause qui amène le serviteur à délaisser la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est al-mahabba, c'est l'amour. Le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah pousse au délaissement de sa désobéissance. Pourquoi? Parce que celui qui aime est envers son bien-aimé obéissant. Celui qui aime est forcément envers son bien-aimé obéissant. Et la meilleure chose que tu délaisses, c'est ce que tu délaisses par amour propre. Tu aimes des choses. Tu as été habitué à des choses. Tu es addict à des choses. Et te crois dépendant de certaines choses. Mais en réalité, la seule chose de laquelle tu es dépendant, de manière absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as Allah, tu as tout. Si tu perds Allah, tu as tout. Si tu as Allah avec toi, tu as l'armée qui est là. Tu as la subsistance qui n'est jamais plus. Tu as Allah avec toi, tu n'auras besoin de plus personne. Mais s'il te manque Allah, personne ne pourra combler ce manque que tu auras dans ton cœur. Tu pourras parcourir la terre dans son entièreté à la recherche de ce bonheur. Tu frapperas toutes les portes, la porte de la richesse, la porte du pouvoir, la porte de la notoriété, la porte de la femme, la porte de la drogue, la porte de l'alcool. Tu peux frapper à toutes les portes. Tu ne trouveras pas de bonheur. L'apaisement. L'apaisement du cœur se nourrit de par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui en réalité découle du premier point, qui est sa connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا كَحُبِّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا. Et parmi les gens, il y en a qui aiment en dehors d'Allah des gens, les plaçant, les mettant au même niveau qu'Allah. Parmi les gens, certains prennent des égaux. Les aimant comme on aime. Quant à ceux qui ont la foi, leur amour pour Allah est plus ardent. Pourquoi il est plus ardent? Parce que les infiltrateurs, les politiques, ont partagé leur amour entre Allah et les fausses divinités. Pour croyant qui est monothéiste, lui, son amour, il est exclusivement pour Allah. Alors il est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, car beaucoup plus pur. Le prophète sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que parmi les signes de l'amour véridique du serviteur pour son Seigneur, il y a le fait de suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, lorsqu'il nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur, très miséricordieux. Les gens ont dit, on aime Allah. Allah les a aimés. Si tu aimes Allah, ça va se voir dans ton cœur, ça va se voir. Sur ta langue, ça va s'entendre. Avec tes membres, ça va se voir. Celui qui dit j'aime Allah, quand c'est la salat, il laisse ce qu'il aime pour ce qu'il a aimé par-dessus tout, Allah qui va prendre. Celui qui aime Allah, il réunit son argent de manière halal, il le dépense de manière halal, et au moment de la zakat, il le donne volontairement, satisfait de partager et de donner du bien à ceux qui sont dans le besoin. Celui qui aime Allah, quand le mois de Ramadan arrive, il lui a manqué, il est content de renouer avec lui. Celui qui aime Allah, lorsque le moment de la prière du Salat al-Tarawih arrive, il se réjouit. Celui qui aime Allah, au moment du pèlerinage, son cœur lui dit « Allons, pèlerinage ». Celui qui aime Allah, il est bienfaisant vers ses parents, épouse, enfant, voisin. Celui qui aime Allah, ça va se voir. Sinon, ça restera des prétentions. Et les prétentions, si les preuves ne sont pas avancées, ça reste des prétentions. Ça reste des prétentions. Et comme il dit, tu désobéis à la vraie divinité. Mais tu prétends, tu fais apparaître son amour. Cette chose-là, elle contredit le bon sens. Si ton amour pour Allah avait été véridique, tu lui aurais obéi. Car certes, celui qui aime, demeure envers son bien-aimé, constamment obéissant. Donc, cet amour-là, il faut le développer. Et il faut apprendre quelles sont les causes qui développent l'amour qu'on a pour Allah. Comme sa connaissance. Comme l'étude de la science. Comme méditer sur ses biens. Comme aller dans les assises de science. Comme fréquenter ceux qui aiment Allah. Comme mentionner et évoquer beaucoup d'amour. Et beaucoup d'autres choses encore. Le troisième point qui aide le serviteur, le troisième point qui aide le serviteur à s'éloigner, à délaisser les péchés, c'est de ressentir et de témoigner les bienfaits d'Allah sur notre personne. Les bienfaits d'Allah sur notre personne sont indénombrables. On ne peut les compter, on ne peut les énumérer. Allah nous dit dans Sourate Ibrahim, « Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha » Et si vous essayez d'énumérer les bienfaits d'Allah, de les dénombrer, vous ne pourrez les faire. Allah t'a créé à partir de vous. T'a donné la vie. T'a donné tout tes sens. T'a donné une famille. T'a donné un foyer. T'as donné la nourriture avec laquelle tu vas manger, l'eau avec laquelle tu vas t'abreuver. Lui, il t'a envoyé le message. Il t'a donné l'islam. Il t'a guidé à la somme. Il t'a permis de l'adorer. Il a fait de toi un serviteur honorable, soumis à musulman, prieur, jeûneur. Allah Azza wa Jalla t'a tout donné. Lorsque tu te rappelles ces bienfaits-là, de manière inéluctable, ton amour pour Allah va augmenter jusqu'à ce que tu sens que ton cœur bouge dans ta poitrine. Jusqu'à ce que tu sens ton cœur s'exciter à un point tel qu'il s'en faut de peu pour qu'il sorte de ta poitrine. Un des compagnons d'Ubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, un jour, alors qu'il n'était pas encore musulman, à la salat du Maghrib, le prophète alayhi salat wa salam récitait sourate Fatir. Et là, il l'a entendu réciter. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqu. Il n'était pas musulman, il entend. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Il a dit, mon cœur a failli s'en faire. Et ce fut la première fois, avec un S, où la foi sans S a pénétré mon cœur. Il a médité un verset, il est en France. Est-ce que tu t'es créé tout seul? Non. Est-ce que le néant peut créer le présent? Non plus. Il reste une seule solution, c'est Allah le créateur de tout. Si Allah est le créateur de tout, comme vous le reconnaissez, c'est le seul que vous devez adorer. Alors il est en place. Plus tu vas méditer ta situation et les grâces d'Allah sur toi, plus tu vas l'aider. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous invite dans le Coran à méditer sur sa création. Et en vous-même, ne voyez-vous donc pas?
si tu médites sur le corps humain, si tu médites sur le, que ce soit vasculaire, que ce soit sanguin, que ce soit, subhanallah, tu regardes sur l'humain, Allah, tabarakallah, tabarakallah. Si tu médites sur cet univers, les cieux, la terre, les montagnes, le soleil, la lune, la âme, si tu médites tout ce qu'Allah Azzawajal t'a donné, les enfants que tu as, c'est Allah qui te les a donnés. Réfléchis sur ce que tu aimes le plus et rappelle-toi que c'est Allah Azzawajal qui te les a donnés. L'argent que tu as, la santé que tu as, l'adoration que tu fais, tout cela, c'est Allah Azzawajal qui te l'a donné. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit « Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawat al-iman » Trois choses. Celui qui les a, goûtera au délice de la foi. La première, c'est quoi ?« An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu » Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre chose. Que toute autre chose. Qu'il aime la personne de l'imam que pour lui. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Donc, le fait de se rappeler les bienfaits d'Allah, ça nous amène à un comportement qui est quoi ? Est-ce qu'on peut envers celui qui nous a tout donné ? Est-ce qu'on peut envers celui qui a été bienfaisant répondre avec les péchés ? Celui qui te fait que le bien tous les jours, comment est-ce que toi tu peux à ton tour en face faire le mal, lui désobéir, être mal poli, être ingrat, être désobéissant ? Non. C'est le pire des comportements. Ceci est le pire des comportements. Le serviteur a honte. Quand une créature a été bienfaisante envers elle, de se montrer ingrat et de lui faire du mal. Plus encore, si cette créature un jour lui fait du mal après lui avoir fait beaucoup de bien, elle va jeter ce peu de mal dans la mer de vie. N'est-ce pas ? Là, ce sont les gens nobles. Qui sont la plupart des habitants de l'enfer ?
Pas le droit à la parole.
Les femmes.
Quelle est la preuve de cela ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya ma'ashara al-nisa tasaddaqna » Où vous les femmes faites beaucoup d'aumônes. « Fa inni ra'aytu kunna akthara ahlinna » Car je vous ai vu la plupart des habitants du paradis.
Alors elles ont eu plein d'enfants.
Pardon, la plupart des habitants de l'enfer. Cependant, ce lapsus-là est véridique. Elles sont la plupart des habitants de l'enfer. Mais elles sont aussi la plupart des habitants du paradis. Naam. Ils sont la plupart des habitants de l'enfer. Naam. Mais aussi au paradis, il y aura plus de femmes. Vous étudierez pourquoi. Donc, mais c'est une erreur. Allah vous récompense pour m'avoir corrigé. Donc, faites beaucoup d'aumônes. Je vous ai vu la plupart des habitants de l'enfer. Pourquoi au messager d'Allah ? Une femme pieuse qui entend ça, elle a peur. Elle veut savoir comment sortir de ce problème. Il a dit, parce que vous maudissez beaucoup les péchés de la langue et vous êtes ingrat envers vos êtres. La gratitude. L'un d'eux fait du bien un long moment, puis quand elle voit un mal, elle dit, tu m'as jamais rien fait. J'ai jamais été heureuse avec toi. Subhanallah. Il est venu, il t'a fait sortir de la sphère des célibataires pour te faire entrer dans la sphère des femmes mariées. Tu étais une telle, désormais tu es l'épouse d'un tel. C'est un titre honorifique. Ensuite, tu étais dans ton foyer. Il t'a sorti, il t'a donné un foyer, un tour. Tu es la maîtresse de maison. Tu es celle qui souhaite organiser son foyer comme ceci ou comme cela, alors que tu étais chez tes parents et tu n'avais pas ce pouvoir. Ensuite, il a dépensé pour toi. Il se lève, il travaille pour toi, il dépense pour toi. Naam. Et toi, tu peux rester dans ton foyer. Ensuite, lorsqu'il y a des enfants, il dépense pour eux. Et il te met à l'abri du besoin. Comment après tout cela et beaucoup d'autres choses, il te recommande le bien, il t'oriente. C'est là, c'est une compagnie pour toi. Il t'emmène ici et là. Peut-être même que pour toi, il fait du bien à tes parents ou à des connaissances à toi. après tout ce bien-là, comment est-ce que une femme qui craint Allah et qui croit au jour dernier et qui sait qu'elle va être jugée, elle peut se montrer ingrate et manquer de respect à son époux, de la sainte. La femme musulmane, la servante d'Allah, ne sait-elle pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsqu'on a demandé qui sont les femmes de ce bas monde, qui seront les femmes au paradis, il a dit El Wadoud, El Waloud, El Aoud, la femme affectueuse, c'est-à-dire celle qui se fait aimer de son époux de par ses nobles qualités comportementales et physiques, cherche à s'embellir, à se faire aimer de lui, par ses bonnes paroles, par son comportement, par sa piété. Deuxièmement, elle waloute, elle enfante facilement. Troisièmement, elle aoute. Et ça, c'est une qualité qui tend à se faire rare, malheureusement. Allah Azzawajal nous guide, nous les hommes musulmans, et les guide, elles, les femmes musulmanes. Elle aoute, ça veut dire quoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a défini cela en disant, celle qui, lorsqu'on lui fait un tort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a raison. Elle n'a pas fait de faute. Son époux lui fait un tort. Elle revient vers lui. Il y a un froid, il y a une dispute, il y a une distance. Elle revient vers lui, elle brise cette distance. Son époux a bien trop de valeur dans son deal et puis dans sa dunya pour qu'elle laisse ce froid-là. Elle revient vers lui, elle met sa main dans sa main, elle lui dit, je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. Ça, c'est une femme qui craint Allah Azza wa Jal, qui sera au paradis. Celle qui, lorsqu'elle cause un tort à son époux, elle revient vers lui, elle met sa main dans sa main, elle lui dit, je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait. Ça, c'est la femme qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala, et elle sait pourquoi elle s'est mariée. Allah Azza wa Jal élève la femme musulmane, la préserve, l'honore de par sa soumission à son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Donc, ça, c'est entre les créatures. Walillahi al-mathalul a'la. Et Allah appartient le plus beau des scripts. Allah Azza wa Jal nous a toujours fait du bien. Nous a tout donné. On le mérite. Sans qu'on ait de droit obligatoire sur lui. Mais pourtant, il nous donne. Subhanallah, on lui désobéit, il nous donne. On lui redésobéit, il nous redonne. Il se fait aimer de nous en nous donnant. Puis il nous donne pour qu'on revienne à lui et qu'on regrette. Et si on ne revient pas assez vite, il nous décrète des épreuves sur notre chemin pour qu'on revienne à lui. Subhanallah, il nous donne tout. Comment est-ce qu'on ne va pas l'aimer d'un amour qui déborde? Comment est-ce qu'ensuite on ne va pas avoir honte de répondre à ces bienfaits-là, à ces grâces-là, en lui désobéissant? Celui qui médite sur cela, délaissera le péché. Délaissera le péché. Écoutez cette belle histoire d'Ibrahim ibn Adham. Un homme lui est venu et lui a dit, Abba Isha, je suis un grand pécheur. Ana musrifun fil ma'asi, ça veut dire, j'en fais trop. J'en fais trop. Mon âme, je ne la tiens pas. Elle est déliée dans le péché. Puis il lui a dit, fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran. Alors donne-moi ce qui sera pour mon âme un choc. Ce qui va secouer mon âme et va lui permettre de. Il va pénétrer mon cœur. Je veux une parole poigne. Il va me réveiller. Il va me sauver. Et il lui a dit, si tu acceptes cinq choses, tu réussis à faire cinq choses, à ce moment-là, tu pourras faire tes déchets. Dans le cas contraire, on en reparle. Écoutez la première. Donc, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alayha lam tadurraka ma'siyatu wa lam tubika ladhatu. Cinq choses. Si tu arrives à les avoir, alors le péché te nuira en rien. Aucun délice, plaisir ne pourra t'anéantir. Il lui a dit donne. Il lui a dit la première. Si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas sa substance. Mais désobéir à Allah, mange pas sa subsistance. Il lui a répondu, qu'est-ce que je vais manger alors? Tout ce qu'il y a sur la terre, c'est la subsistance d'Allah. Il lui a répondu, oh toi, Est-ce qu'il convient que tu manges la subsistance et ensuite tu désobéis à celui qui te l'a donné avec sa subsistance? Ça, c'est la première. Il lui a dit, donne-moi la deuxième. Il lui a dit, lorsque tu souhaites commettre un péché, ne te rends pas dans un endroit qui fait partie de sa terre. Quand tu veux lui désobéir, va où ça ne lui appartient pas. N'habite pas où ça lui appartient, si tu lui désobéis chez. Il lui a dit, mais celle-ci, elle est encore plus difficile que la première. Parce que tout ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest appartient à Allah. Ou alors, où veux-tu que j'habite? Il lui a dit, est-ce qu'il convient que tu manges ta subsistance, que tu vives chez lui, et ensuite tu lui désobéis? Il lui a dit, donne-moi la troisième. Il lui a dit, lorsque tu veux désobéir, et que tu manges ta subsistance et vis dans son pays, cherche un endroit de son pays où il ne te verra pas. Cherche un endroit de son pays où il ne te verra pas. Où tu ne seras pas apparent. Et désobéis-lui dans cet endroit. Il lui a dit, comment est-ce que je pourrais faire cela? Alors qu'Allah me voit et me surveille, même ce qui est caché de ma personne. Il lui a dit, est-ce qu'il convient de manger sa subsistance, de vivre chez lui, de lui désobéir alors qu'il te voit? Il lui a dit, donne-moi la quatrième. Il lui a dit, lorsque l'ange de la mort te viendra pour récupérer ton âme, dis-lui, reviens plus tard, je vais me repentir entre-temps. Dis-lui, reviens plus tard, je vais me repentir entre-temps, un repentir sincère. Lui, fais des bonnes œuvres et il reviendra prendre ton âme. Il lui a répondu, il n'acceptera pas ça de moi. Il lui a dit, si toi tu n'as pas la capacité de repousser de ta personne la mort pour te repentir, et tu sais qu'elle est inéluctable, elle viendra et personne ne pourra la repousser, comment est-ce que tu peux espérer te sauver de ce moment sans délaisser le péché? Il lui a dit, donne-moi la cinquième. Il lui a dit, lorsque les gardiens, les anges qui appliquent le châtiment d'Allah sur les pécheurs viendront le jour de la résurrection pour te chercher et t'emmener en enfer, ne va pas avec. Ne va pas avec. Il a répondu, ne me lâcherai pas. Ils n'accepteront pas cela de moi. Il lui a dit, comment est-ce qu'avec tout cela, alors, tu peux espérer le salut? L'homme lui a répondu, cela me suffit. Astaghfirullah, astaghfirullah. C'est repenti. Il s'est repenti. Le quatrième moyen de se séparer des péchés, c'est le fait de se rappeler la colère. Le fait de se rappeler la colère d'Allah et sa vengeance face aux pécheurs désobéissants. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque son serviteur se sauve de lui et qu'il pense trouver un échappatoire autre que vers lui, Allah se met en colère contre lui. Et lorsqu'Allah le saisit, il ne le lâche pas. Et si la colère d'Allah s'abat sur le serviteur, personne ne pourra le défendre. Péché, mettre en colère le Seigneur. Quand le Seigneur est en colère, la malédiction d'Allah Azza wa Jalla s'abat sur le serviteur. Allah nous dit dans le Coran, « Falamma asafuna intaqamna min. Falamma asafuna ayshiddatul ghadab. » Quand ils ont mis fortement en colère Allah, il s'est vengé. Celui qui pense à faire un péché, il se rappelle la colère. Il se rappelle la colère d'Allah, et cela sera un frein, forcément pour lui. Qui vénère Allah, qui aime Allah, il se rappelle les bienfaits d'Allah, et là ici, il se rappelle de la colère. Donc le serviteur doit être sur ses gardes. Et ne jamais s'approcher du péché, car le péché est synonyme de colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, rappelle-toi qu'à chaque fois que tu commets un péché, tu perds un bienfait. Lorsque tu es dans un endroit du mal, que tu n'es pas dans un endroit de bien, n'est-ce pas les frères? Lorsque tu consommes quelque chose de haram, au même moment, tu ne peux pas en même temps consommer quelque chose de halal. N'est-ce pas? Lorsque tu fais de l'argent haram, c'est qu'en ce moment-là, tu ne fais pas de l'argent halal.
Mm.
Lorsque tu parles, lorsque la personne parle au téléphone avec une femme dans le haram, c'est qu'il n'est pas en train de parler avec une femme qui lui est laissée dans le halal. N'est-ce pas? Donc, à chaque fois que le serviteur commet un péché, il se rappelle qu'il a perdu bien mieux que cela parmi les choses de ce monde, parmi les choses de sa religion, parmi les choses présentes, parmi les choses de l'au-delà. Et cela est blâmant. Personne qui a la raison peut faire ça sciemment et en étant conscient de cela. Qui se dit, par exemple, eh ben, je vais manger pendant 60 ans des choses haram, et ensuite je vais vivre éternellement l'enfer. Qui réfléchit comme ça? C'est la bêtise. Alors que l'intelligence se dit, ben, pendant 60 ans, je vais faire attention à ce que je mange, toute bonne chose halal, et ensuite éternellement, je pourrais manger sans restriction tout ce que je veux. Oui, l'intelligence. Si on te dit, je te donne le choix entre vivre dans un appartement pendant l'année éternelle, disons pendant 500 ans. D'accord? Et ensuite, tu vas au paradis éternellement et tu vivras dans les palais. Bien. Ou bien, je te donne une maison, un palais. D'accord? Et tu vis dedans pendant 10 ans et ensuite tu as la rue jusqu'à tu. La personne qui choisirait le palais, on dirait d'être téléphone. Comment est-ce que Allah a choisi un palais alors qu'il va finir dans la rue? Mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'ensuite, il finit en enfer. Si Allah Azza wa Jalla ne nous pardonne pas parce qu'il est en fou, parce qu'il est dans le shirk, où Allah décide de ne pas lui pardonner parce qu'il a des grands péchés. Donc, la spécificité la plus spécifique de la raison, c'est lorsqu'on n'a pas le choix entre deux biens, on choisit le meilleur des deux. Lorsqu'on n'a pas le choix entre supporter deux maux, on supporte le moins pire. Ça, c'est l'intelligence de la personne. Donc, à chaque fois qu'un péché se présente, dis-toi, en faisant ce péché, je vais perdre mieux. Je vais perdre mieux. Barakallah fikou. Chaque chose de ta religion que tu perds en faisant un péché, c'est un bien qui est meilleur que tout ce bas monde. C'est un bien qui est meilleur que tout ce bas monde que tu perds. Et la pire des choses, c'est la foi que tu perds. Le lien avec Allah, l'amour d'Allah que tu perds, les places et les degrés au paradis que tu perds, la baraka que tu perds. Et en réalité, ne pas ressentir ça, c'est pire que le péché lui-même, comme le disent les saints. Pire que le péché lui-même, ne pas sentir les effets des péchés. Pire que les péchés eux-mêmes, le fait de ne pas ressentir les effets des péchés. Comment est-ce que tu peux vendre une jouissance et un plaisir éphémère de ce bas monde pour subir une humiliation durable et risquer de perdre la plénitude de la jouissance éternelle dans un paradis vaste comme les cieux et la terre. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam disait « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » Le fornicateur, au moment où il commet le péché, n'est pas croyant. N'est pas croyant. C'est-à-dire il perd la perfection de la foi. Il perd la perfection de la foi parce que c'est un grand pécheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré les conséquences de ce péché dans l'au-delà. C'est qu'il a vu des gens crier, hurler dans un four qui les brûlait. Et ce feu-là les faisait remonter vers le haut. Arrivé au sommet, on les replongeait dedans. Et ça continuait de manière incessante et constante. Il a dit, oh Djibril, qui sont ces gens-là? Et à la fin, Djibril lui a dit, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Pour un plaisir éphémère, de quelques secondes, minutes, heures, jours, mois, années, pour vivre ça dans l'au-delà, cette humiliation, est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Alors qu'il a le halal dans ce bas-monde, puis il aura le halal dans l'au-delà, de manière éternelle. Il aura la force de X hommes نعم. Et il aura ses épouses au paradis. Et elles ne se verront pas. Voilà mamnoua, il n'y aura pas d'interdit. On lui dit de patienter quelques années seulement. Il aura éternellement tout ce qu'il souhaite. Comment est-ce qu'il peut délaisser le halal qui sera parfait et complet? Lui-même, il se plaint de ses femmes dans le haram. Il dit, j'ai tout fait pour elle, elle est ingrate. Elle ne me respecte pas. Elle regarde moi, mais elle regarde aussi lui. Comment est-ce que tu t'humilies pour cette femme qui te regarde toi et regarde beaucoup d'autres personnes aussi? Comment est-ce que tu t'humilies pour cette femme? Tu lui donnes et elle est ingrate. Tu lui donnes et elle pense à quelqu'un d'autre. Quand tu es avec elle, elle pense à quel moment elle sera avec quelqu'un d'autre. Cette femme-là, elle est imparfaite, elle est incomplète. Et toi, tu désobéis à ton Seigneur qui t'a tout donné et qui est parfait. Subhanallah. Délaisse ce qu'Allah t'a interdit et il te remplacera par mieux. Il te remplacera par mieux. C'était le combienième point?
Cinquième.
Allez. Et malheureusement, à extérioriser de la piété et à être exemplaire en public, ça n'est pas suffisant pour obtenir le salut. Il faut aussi qu'intérieurement, en public, on soit pur, et en privé, lorsque nous sommes vus de personne, si ce n'est de celui qui nous surveille au-dessus des cieux, on soit également pur et pieux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec des hasanats, telle la montagne de Tihama, blanche, et Allah rendra tout cela poussière et parfait. Thauban radiallahu anhu a dit au message d'Allah, décrivez-nous, exposez-les-nous, de peur d'en faire partie sans le savoir. Et il lui a répondu, ils font partie de vos frères, ils ont la même peau que vous, ils prennent pareillement que vous une partie de la nuit en adoration, mais ce sont des gens qui lorsqu'ils se retrouvent en privé avec les interdits d'Allah, ils les commettent. Quand ils se retrouvent en privé avec les interdits d'Allah, ils les commettent. Subhanallah. Hatada rahimallahu ta'ala disait, celui qui parmi vous a la capacité de ne pas annuler ses bonnes œuvres en faisant des mauvaises œuvres, qu'il le fasse. Et celui qui a la capacité de faire du bien pour annuler le mal, qu'il le fasse, parce que le bien viendra effacer le mal. Viendra effacer le mal. Sixièmement, rappelle-toi qu'à chaque fois que tu endures face au péché, c'est une victoire que tu as emporté en gagnant cette bataille. La vie, c'est un ensemble de combats contre le shaitan. À chaque fois que tu l'emportes, ça va te procurer une joie et une fierté. Ça va te procurer une joie et une fierté. À chaque fois que tu réussis à battre le shaitan, tu as réussi à battre ton âme. Ça va te procurer un plaisir, une joie, écoutez bien, qui est plus grande que la joie pour tenir la jouissance du péché. Par exemple, des femmes dénudées passent devant lui. Il regarde et il pense qu'il s'est nourri, il a nourri son désir, son besoin. Mais ça n'a rien assouvi. Il veut regarder encore une autre, puis une autre, puis une autre. Et au final, il arrive, il est seul chez lui, il n'a rien gagné de son regard. Au contraire. Puis, il fait ses comptes, il entend une khutba sur le fait de baisser le regard, sur la piété. Il se dit, aujourd'hui, la première chose par laquelle je vais commencer en sortant, c'est baisser le regard. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, « Wa kulli al-mu'minin yaghuddu min absari. » يَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Et dit aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, de rester plus pur. Alors ils se rappellent cela, ils sortent, ils baissent le regard. Une première passe dénudée, tourne le regard, baisse le regard. Une deuxième, il veut regarder, il veut savoir ce qui se cache derrière cela. Mais il sait que c'est l'arnaque du chef. Alors il baisse à nouveau le regard. Et là, après s'être senti humilié les fois passées, il se sent fort. Il se sent fort. Et en se détournant, c'est à lui qu'on viendra. Et là encore, il se détournera. Il se sentira encore plus fort. Il se sentira noble, il se sentira propre, il se sentira pur. Et plus il pratiquera le délaissement du péché en baissant le regard, plus Allah Azzawajal va lui donner une lumière dans la vue. Plus Allah va embellir son visage, embellir son corps, embellir sa foi. Et plus il sera fier de lui, plus il sera heureux. Voilà. Donc le délaissement du péché, ça amène la noblesse, ça amène la force. Et cette force-là n'est pas du tout comparable. Ce plaisir-là n'est pas du tout comparable avec le plaisir obtenu dans la désobéissance. Plus tu te retiens, plus Allah Azza wa Jal renforce ta foi. Et plus tu es fort à délaisser le péché. Et rappelle-toi une chose, lorsque tu as commencé un sport ou un travail ou une activité, au début c'était difficile ou pas? C'est difficile, d'accord, mais avec l'entraînement et la pratique régulière, hein, eh ben, tu réussis. Le maçon, le travailleur, il avait du mal quand il portait 5 kilos. Il était combattu, et ainsi de suite. Puis il arrive à porter 10 kilos. Puis 15, puis 20, ainsi de suite. Parce qu'il s'entraîne, il répète. Ben, plus tu répètes l'endurance face à la désobéissance d'Allah, plus tu deviendras fort. Plus tu deviendras fort, endurant et compétent. Fort, endurant et compétent. Comme si cette chose sera innée sur toi. Tu vas réussir à délaisser les péchés de la manière la plus facile, la plus facile, la plus facile. Barakallahu fikum. Le septième point, c'est de te rappeler que pour chaque péché que tu délaisses pour Allah, écoutez bien, pour chaque péché que tu délaisses pour Allah, Allah te remplace par lui. Allah. Chaque péché, subhanallah. Allah nous a interdit de lui désobéir. On lui a désobéi. Il ne nous a pas châtié. Il nous a rajouté pour qu'on aime, on délaisse le péché. Et en plus de cela, quand on lui obéit, subhanallah, c'est une chose qui est tout à fait normale, on ne mérite rien. Et bien malgré tout, par sa grâce, sa générosité, sa miséricorde, sa perfection, sa noblesse, et bien il nous remplace par meilleur. Il nous remplace par meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tu ne délaisseras pas une chose par crainte d'Allah sans qu'Allah te remplace par meilleur. Et wallah, les exemples sont indénombrables. Des gens qui ont arrêté le haram, Allah azza wa jalla l'a rendu parmi eux. Ils se sont posé la question, mais moi je n'ai connu que ça comme travail. J'étais que dans le haram, comment je vais faire? Moi j'ai un train de vie à assurer. Moi je suis comme vous, moi ceci, moi cela. Tu lui dis délaisse pour Allah, Allah Azza wa Jal va te donner. La foi pénètre son cœur, elle vient brûler l'amour du péché et sa jouissance. Il arrête le péché. Et subhanallah, il commence à travailler un petit peu. Tu le revois, il avait telle voiture, il est encore mieux. Il avait tel appartement, tu vois, dans une grosse ville là. Il avait telle chose. Tu lui dis mais subhanallah, après, je ne suis pas ton caractère pour sa substance. Wallah, c'est un miracle, Harry. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné. Subhanallah, tu te rappelles. Mais moi, je n'avais pas de doute. Nous, on connaît Allah azza wa ta'ala. C'est toi qui m'as dit comment. Allah subhanahu wa ta'ala, les témoins que la première fois on est venu au Hajj, écoutez bien, on n'avait même pas assez pour payer le Hajj. C'était il y a 21 ans. Ma mère, rahimahullah ta'ala, elle m'a donné une partie. Ma tante, rahimahullah, elle m'a donné une partie. Et d'autres personnes m'ont aidé. C'était la première fois que je travaillais de ma vie. J'avais devait avoir 18 ans, 19 ans. Par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, j'ai travaillé en été. Le Hajj à l'époque, c'était 2000 euros ou quelque chose comme ça. Et on est venu et on a fait le Hajj. On n'avait pas d'argent, on était pauvres. On n'avait pas d'argent. Allah Azza wa Jalla nous a facilité. En revenant du Hajj, Allah Azza nous a facilité. Allah Azza nous a ouvert des portes, nous a facilité à apprendre la langue arabe, nous a facilité à étudier, à connaître plus le Dîn. Et ce, Allah Azza nous a remplacé par beaucoup. Les exemples sont autour de nous, sont devant nous, sont sur nous, sont derrière nous et sont à venir. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui rendra par meilleur. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Quiconque, qu'il soit un homme ou une femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Les savants du tafsir ont dit, parmi la bonne vie, on va lui donner une subsistance halal et vaste. Si t'es pieux, Allah Azza wa Jal va t'enrichir. La richesse du cœur et la richesse pécuniaire. Et dans l'au-delà, écoutez bien. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْبَحْرِ. Quant à ceux qui ont redouté de comparaître devant leur Seigneur et se sont interdits les passions, interdit à leur âme la passion haram, leur destination à eux sera le paradis. Donc dans ce monde, Allah te remplace par mieux, et dans l'au-delà, Allah Azza wa Jalla t'accorde le paradis. Inna kalam tad'a shay'an ittiqa'an lillah, ittiqa'a ittiqa'a Allah illa a'taka Allah khayran min. Donc cela, on peut plus avait laissé le péché. Par exemple, l'alcool, Allah nous en préserve. Certains sont addicts à l'alcool, n'arrivent pas à arrêter de boire. Ils rentrent chez eux, c'est le désordre chez eux, ils cassent, ils battent la femme, ils terrorisent les enfants, ils s'humilient. À ces gens-là, on leur dit craignez Allah. Délaissez l'alcool et Allah Azza wa Jalla va vous remplacer par mieux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. Quiconque boit de l'alcool dans ce bas monde et ne se repent pas de cela, il en sera privé dans l'au-delà. Il en sera privé dans l'au-delà. Si tu délaisses la chose pour Allah, Allah Azza wa Jalla te remplace par Dieu. Allah Azza wa Jalla au paradis, il a fait un vin qui n'est pas enivrant. Je disais dans Sourate Muhammad, il a fait un vin qui n'est pas enivrant. Et tu auras à boire et à te délecter de ce vin-là. Et il est pur. Subhanahu wa ta'ala. Huitièmement. Et là, c'est un niveau. Les mots manquent à la langue française pour pouvoir exposer et prouver le ressenti de ce que je vais mentionner. El ma'iyatul khas. Si tu délaisses le péché, tu obtiendras de la part d'Allah Azza wa Jalla El ma'iyatul khas. Ma'a, ça veut dire avec. El ma'iyya, ça veut dire être avec. Si tu délaisses le péché, après avoir été éloigné d'Allah, après avoir été celui qu'Allah, contre qui Allah est en colère, celui qui est menacé par Allah, celui qui est sur le chemin de la demeure des ennemis d'Allah à l'enfer, eh bien Allah Azza wa Jalla te rapproche de lui. Il t'aime. Il te couvre. Il te défend. Il te protège. Il t'assiste. Il t'honore. Il te bénit. El ma'iyatul khas, ça veut dire en plus du fait qu'Allah Azza wa Jalla te voit et t'entend, eh bien il est avec toi, il te protège. Où que tu sois, quoi que tu fasses, il t'assiste, il te guide. Toi, ton épouse, tes enfants, tes biens, ta dunya, ton au-delà, Allah Azza wa Jalla est avec toi. Il est avec toi de par sa protection, de par son amour, sa surveillance, sa guidée, son assistance. Cela n'a pas d'équivalent dans ce monde. Si tu as Allah Azza wa Jalla avec toi, tu n'auras plus rien à craindre. Tu n'auras plus rien à craindre. Et Allah nous dit avec qui il est. Inna Allah ma'a sabiri. Allah est avec les endurants. Ceux qui endurent dans la constance, dans l'obéissance d'Allah. Ceux qui endurent grâce à la désobéissance d'Allah. Ceux qui endurent lorsqu'ils sont touchés par un malheur. Inna Allah ma'a alladina taqaw wa alladina hum muhsinun. Certes, Allah est avec les gens pieux et avec ceux qui sont dans la bienfaisance et l'excellence. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Et certes, Allah avec les bienfaisants. بارك الله فيك. Donc, avant d'assouvir le plaisir, le désir dans le haram, rappelle-toi ce que tu as gagné en délaissant le péché. El-ma'iyya, rien ne voit el-ma'iyya. Subhanallah, rien ne voit el-ma'iyya. El-ma'iyya, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a donné au prophète Arsalem et à Abu Bakr quand ils ont fait la hijra, quand ils ont fait l'égir et qu'ils se sont réfugiés dans la grotte, la caverne souterraine durant 3 jours ou 3 nuits. Lorsque les ennemis ont retrouvé leur place, et qu'Abu Bakr a vu les clés de l'ennemi, il a dit Ya Rasulallah, au message d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses clés, nous verra. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a répondu Ya Abu Bakr, ma vannu kabithnain illahu thalithuhuma. Allahu Akbar. Bon Abu Bakr, que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? Ne sois pas triste, toi, Abu Bakr. Que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? Donc si Allah Azza wa Jalla est avec toi, tu seras le grand gagnant. Barakallah. Le 9e point, c'est de te rappeler que la mort, elle frappe soudainement et qu'elle ne prévient pas. La mort te vient lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'ordonne. Cette mort-là, elle ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme, le blanc et le noir, le riche, le pauvre, le gouverné et le gouverné. Quand Allah Azza wa Jalla l'envoie, elle vient, elle récupère ton âme. De savoir que c'est violent, c'est fracassant, et que ça ne prévient pas, ça doit faire en sorte que tu délaisses le péché parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, est-ce que tu auras le temps de te repentir ou pas. Alors il faut être constamment prêt et préparé. Comment ? Avec le repentir constant et avec l'obéissance constante. Allah nous dit en Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout âme goûtera à la mort. Il nous dit également, aynama takunu yudrikumul maut. Où que vous soyez, la mort vous attend. La mort vous attend. Non. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné beaucoup celle qui détruit tous les plaisirs. C'est-à-dire la mort. Lorsque la mort se présente, personne ne peut la repousser. Et vu que tu ne peux pas recevoir un émissaire qui t'informe de quand cela aura lieu, tu dois constamment te repentir, délaisser le péché. Pour finir, le dixième point, le fait de constamment percevoir deux situations de vie. Le premier, la bonne santé, être préservé et vivre dans le vide. Le deuxième, être dans les problèmes, vivre une vie de malheur. Sache que rien n'amène plus la vie de malheur que les péchés. Donc à chaque fois avant de faire un péché, tu as la santé, rappelle-toi qu'en commettant ce péché, si tu tombes malade, ça sera une cause primaire. Tu as la pêche et toi et le bonheur, rappelle-toi que si tu commets ce péché, ça sera la cause pour amener le désordre chez toi. Tes enfants sont obéissants et bienveillants à ton égard. Sache que si tu commets ce péché-là, ça pourra être une cause qu'ils deviennent désobéissants et rebelles. Et fais la même chose pour toutes les sphères dans ta vie. La santé, le travail, la richesse, la tranquillité, le bon voisinage, la voiture, le vêtement, le logement, et ainsi de suite. Tout cela, c'est la grâce d'Allah, azzawajal, et rien n'amène plus la grâce d'Allah que la foi et l'obéissance. Et tout le contraire, c'est la désobéissance, et rien ne l'amène plus que la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la mécréance. Donc, de visualiser la finalité de chaque chose, en comparant la belle vie et la vie de malheur, ça t'aidera à faire le bon choix lorsque le péché se présentera à toi. Ceci est la moitié de ce que Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné. Et le prophète alayhi salatu wa salam conseillait beaucoup son oncle Al-Abbas et la communauté de demander à Allah d'être préservé et d'avoir une bonne vie. Et il disait, Salillah al-Afiyah, demande à Allah d'être préservé, d'être bien. Et il disait dans ses invocations quotidiennes, Allahumma inni as'aluka al-Afiyah. Et il disait, Allahumma inni as'aluka al-Afiyah. Al-Mu'afa également. Donc ça, c'est une chose qu'il faut demander. Allahumma inni as'aluka al-Afwa wa al-Afiyah. Barakallahu fik. Et aucun serviteur n'a été, à aucun serviteur on a accordé plus grand que la certitude dans le bien et l'afir, et d'être préservé dans son être et ses proches et ses biens et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla nous facilite une autre assise pour mentionner du 11e point au 20e, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Azza wa Jalla nous aider à délier de nos péchés et à sortir de l'étroitesse, de l'humiliation, de sa désobéissance, vers la largesse, vers la grandeur, vers la largesse de son obéissance et de sa soumission. Walhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.